Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal sur Radio Okapi, des combats opposent ce jeudi les rebelles de la FCM-23 au Wazalendo, appuyés par l'armée congolaise, autour de Mueso, dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu. Des affrontements marqués par l'usage d'armes lourdes et légères, avec des conséquences humaines, notamment parmi les déplacés. En Ituri, plus d'un millier d'enfants menacés de perdre leur année scolaire à Boulé, dans le territoire de Djougou. En cause, les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP. Les responsables scolaires plaident pour des cours de rattrapage dans les sites de déplacement. L'invité de ce journal est le député national Amissi Patrick Lupia, élu de Kailo au Maniema. En vacances parlementaires dans la région, il alerte sur l'état des routes et appelle le gouvernement central à appuyer les efforts de réhabilitation engagés au niveau provincial. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Au Nord Kivu, les combats entre les rebelles AFC-M23 et les Wazalendo, alliés aux forces armées de la RDC et FARDC, se poursuivent ce jeudi dans le groupement de Bukombo, territoire de Rutshuru, autour de la cité de Mueso. Des sources locales font état des détonations d'armes lourdes et légères, causant de nombreux dégâts humains, notamment parmi les personnes déplacées. Les détails avec vous, Élise Kavira.
Les tirs ont repris dès 6h locales dans la localité de Bumbasha, non loin de Mueso. Selon nos sources, les combats opposant l'AFC M23 aux combattants du collectif des mouvements pour le changement CMC se sont ensuite étendus vers le jardin Teikol d'Ingeri dans la localité de Mubirubiru. D'autres tirs ont été entendus dans la matinée à Bwiro et dans les plantations appelées Senki, près de la route Mueso-Kashunga. Ces violences durent depuis 3 jours. Mercredi, plusieurs villages de la chefferie de Bwito ont été touchés, notamment Kitunda, Nyarubande et leurs environs, dans le groupement de Kihondo, ainsi que Bumbasha et ses alentours, dans le Bukombo. Nos sources indiquent que le belligérant aurait eu recours à des drones kamikazes. Conséquence, plusieurs civils, dont les personnes déplacées, ont été blessés dans les villages de Bumbasha, Kivuma et Kanyangohe. Une autre source coutumière locale ajoute qu'il est encore difficile d'établir un bilan précis, mais déplore que de nombreuses familles déplacées soient dispersées, certaines ayant perdu la trace de leurs proches.
Et puis, les violences sexuelles liées au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo se sont intensifiées, tandis que le soutien aux survivantes a considérablement diminué. C'est la déclaration de l'ONG internationale Human Rights Watch et l'Organisation congolaise de défense des droits des femmes, SOFEPADI. Dans une tribune publiée sur son site, Human Rights Watch dit avoir documenté les violences sexuelles commises par des membres d'au moins 5 groupes armés non étatiques et par des soldats de l'armée congolaise dans l'Est de la RDC, y compris le M23 soutenu par le Rwanda. Plus d'explications avec Alain Irung.
Pour Human Rights Watch, l'intensification des combats dans les provinces de l'Ituri, Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que les baisses des financements et les difficultés d'accès aux services de santé n'ont cessé de compliquer l'obtention d'un soutien holistique nécessaire pour les femmes et les filles qui survivent à des violences sexuelles. De nombreux centres médicaux proposant des soins de santé et d'autres formes de soutien ont été contraints de fermer. Les groupes armés et les forces militaires utilisent les violences sexuelles comme une arme de guerre dans l'est de la RDC, a déclaré Ida Sawyer, directrice de la division crise, conflits et armes à Human Rights Watch. Les survivantes de ces crimes atroces sont confrontées à un climat d'impunité qui protège les responsables et à un système de santé privé des moyens pour les accompagner. Human Rights Watch recommande que l'armée congolaise devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la discipline afin de prévenir les violences sexuelles. Le gouvernement devrait renforcer son soutien aux enquêtes et aux poursuites en matière de violences sexuelles. Les partenaires internationaux devraient accroître leur soutien aux efforts de responsabilisation.
Entre-temps, au Nord Kivu, le territoire de Walikale abrite l'une des plus grandes mines d'étain au monde, mais reste confronté à des défis de sécurité et de développement. Depuis mercredi, le gouverneur des provinces séjourne à Walikale Centre pour évaluer la situation et encourager les investissements nationaux et étrangers. Opérateur de la mine de Bisiye, Alpha Mine Bisiye Mining, exploite un site parmi les 3 plus grandes mines d'étain au monde, dont la production est stratégique pour les marchés internationaux. Malgré cette importance, Walikale reste confronté à des sérieux défis locaux. C'est ce que nous dit Martial Papi Mukeba.
territoire enclavé Walikale ne dispose ni d'aéroport ni de routes praticables, un paradoxe pour ces territoires confrontés à l'insécurité et qui contribuent pourtant de manière significative à l'approvisionnement mondial en étain. Arrivé mercredi sur place, le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule Somo, a annoncé un plan de développement et de désenclavement déjà en cours, fondé sur la valorisation de l'importance stratégique du territoire.
Pour développer Walikale, nous voulons par exemple travailler sur l'aéroport de Likoma, qui va être une fenêtre d'ouverture qui va permettre que les avions puissent arriver avant que finalement on n'ait pas de route. Pour la population locale, pour pérenniser ce que vous faites dans un climat apaisé, nous sommes en train de penser qu'il y a aussi un volet alternatif au secteur minier qu'il faut développer à Walikale, notamment l'agriculture. Nous sommes en train de travailler sur ce volet.
La mine de Bissié à Walikale figure parmi les plus grandes mines d'étain au monde, représentant 5 à 6% de l'offre mondiale. Minerai stratégique pour l'industrie, sa production fait de la stabilité et du développement de Walikale un enjeu pour les chaînes d'approvisionnement mondial. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Comment renforcer la sécurité entre la RDC et la Zambie? C'est l'objectif de la 14e session de la Commission permanente mixte défense et sécurité entre les deux pays, ouverte à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Prévue du 13 au 16 janvier, cette session se déroule en deux étapes. D'abord, les travaux des experts, puis la réunion ministérielle du 15 janvier, co-présidée par le vice-premier ministre, ministre congolais de l'Intérieur, Jacques Chabani, et le ministre zambien de la Défense, Ambroise Lufuma. Selon Jean Bailongandi, chef de la délégation des experts congolais, plusieurs recommandations issues de la 13e session n'ont pas été mises en œuvre. Il plaide pour l'élaboration d'une feuille de route afin de garantir des avancées concrètes. On écoute Jean Bailongandi dans cet extrait proposé par Alain Irunga.
Mesdames et messieurs les délégués, comme vous le savez, cette session se tient à un moment difficile où notre pays est agressé par la République du Rwanda dans sa partie est, situation qui a causé des milliers de morts que nous déplorons. La Zambie et la République démocratique du Congo sont des pays frères qui partagent des intérêts et des valeurs communs. Et par conséquent, il est de notre devoir de pouvoir travailler étroitement et sans complaisance afin de pouvoir apporter des solutions aux maux qui nous rendent. Cette session consistera à évaluer les recommandations de la 13e session tenue à Kitwe et à analyser les différents incidents et cas survenus affectant nos relations, comme vous l'avez si bien dit, dans votre mot. C'est en vue de juguler pour une meilleure coopération entre nos deux pays frères. Cependant, nous avons noté que plusieurs de nos recommandations ne sont pas toujours exécutées. Ce qui nous oblige, lors de notre présente session, à recourir à l'établissement d'une feuille de route afin de répondre aux attentes de nos deux chefs d'État.
Nous l'avons dit dans les titres, à Ituri, plus d'un millier d'enfants en âge scolaire risquent de perdre leur année scolaire dans la région de Boulé, territoire de Djougou. C'est à cause des affrontements entre les FRDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga. Des responsables d'écoles affectés par cette situation plaident pour l'organisation des enseignements de rattrapage dans les lieux de déplacement pour sauver la vie scolaire de ces enfants. Le point avec Martial Kiza Biamongo.
Au total, 14 établissements scolaires de Boulé et ses environs ont fermé leurs portes depuis le 5 décembre 2025 à la suite des affrontements répétitifs entre les FRDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga. Des milliers d'élèves et enseignants ont fui vers la plaine Savo pour se mettre à l'abri. À ce jour, aucune de ces écoles fonctionne, ce qui met en péril la scolarité de ces enfants. Innocent Bita Chuchema, préfet des études de l'Institut de l'OPA à Boulé, plaide pour l'organisation des cours de rattrapage dans les sites de déplacés du plein Savo pour éviter une année scolaire blanche de ces écoliers.
Le risque est trop grave. Ces enfants peuvent facilement devenir des chègues et ces enfants peuvent se dévier facilement au niveau des groupes armés et vraiment l'avenir de notre communauté est détruit. Nous demandons vraiment les belligérants de cesser les hostilités puisque ce sont les hostilités qui ont fait déplacer la population. Vraiment qui est la cessation des hostilités.
Pour la société civile locale, il y a urgence que la paix revienne au centre des négociations des Boulets et ses environs pour permettre le retour de la population. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Santé. Une crise sanitaire est signalée dans la zone de santé de Shabunda, dans le territoire du même nom au sud Kivu. L'ASBL, bloc citoyen Amani, alerte sur ce qu'elle qualifie de tragédie silencieuse qui frappe cette zone de santé. Selon son coordonnateur, Josué Hassani Kisulu, 9 femmes ont perdu la vie à la suite d'interventions chirurgicales non professionnelles aggravées par un manque de médicaments et de matériel adéquat. Josué Hassani Kisulu s'exprime ici au micro de Jean Kassami.
Derrière ces chiffres, des enfants sont devenus orphelins, des familles brisées et une communauté plongée dans la douleur et dans la peur. Ce drame révèle l'absence criante de contrôle et de régulation des pratiques médicales, la pauvreté et le désespoir qui poussent des familles à recourir à des soins clandestins, le manque de moyens dans les structures publiques. Le bloc citoyen Amani BCA appelle les organisations humanitaires et partenaires de santé à renforcer l'appui en équipement, médicaments et personnel qualifié pour la zone de santé de Shabunda. Les autorités congolaises à agir immédiatement pour fermer ces structures sanitaires informelles et sanctionner les responsables.
L'ASBL, bloc citoyen Amani, appelle également la société civile et les leaders communautaires à sensibiliser la population contre les recours aux soins clandestins. Ces préoccupations sont corroborées par le médecin chef de la zone de santé de Shabunda qui confirme la gravité de la situation. Autre nouvelle sur la fréquence de la paix. Lutte contre les ravins à Kananga. Le gouvernement provincial du Kasaï central a lancé ce mercredi le projet de lutte anti-érosive basé sur l'utilisation d'une plante naturelle appelée Duntao. D'après Clément Tchemcham Muntuabu, partenaire technique de ce projet, les racines de cette plante, originaire de Chine, stabilisent le sol en 3 mois. Il s'agit d'une solution naturelle et moins coûteuse pour lutter contre les centaines de têtes d'érosion qui menacent la ville. Il explique les bienfaits de la plante Duntao au micro d'André Katendengala Moloumé.
C'est une plante qui y a beaucoup de vertus, mais pour le premier temps, nous avons pris un seul vertu qui consiste à éradiquer les érosions. Parce que notre sol étant mouvant, il est en train d'être emporté par les eaux de pluie. Nous avons dit, avec beaucoup de technologies, on a dépensé beaucoup de millions en termes de dollars. Avec la construction des buses, des caniveaux, avec les dépenses en termes de beaucoup de millions de dollars pour acheter les ciments, les graviers, les moellons, les fer à béton. Malgré ça, le sol n'est pas stabilisé. Mais ce que nous faisons, c'est pour stabiliser net le sol. Pour 3 mois, c'est une plante qui a 9 mètres de profondeur avec des racines comme des nattes. En bas là-bas, ça bloque net le sol. On va remblayer, on plante encore, on récupère le sol que l'on peut encore utiliser éventuellement. On construit une maison, une école qui est emportée par les eaux de pluie.
Revenons ici à Kinshasa, où se loger devient de plus en plus difficile pour les ménages à faible revenu. En cause, l'exigence abusive des garanties locatives imposées par certains bailleurs en violation de la loi. Dans presque toutes les communes, ces derniers réclament jusqu'à 10 mois de garantie, souvent sous la formule illégale dite 9+1. Nancy Atambo nous en parle.
De nombreux Kinois affirment souffrir de ces exigences financières dont les montants dépassent largement les limites légales et plongent les locataires dans de grandes difficultés. Ils dénoncent ces pratiques et accusent certains commissionnaires d'en être complices tout en regrettant l'absence d'action concrète de la part de l'État.
Nous ici à Tchangou, les garanties locatives des 3 mois n'est pas respectée, comme dit la loi.
Les commissionnaires et aussi ils font partie des gens qui augmentent le mois de location.
Le président de la Ligue des locataires, Jean-Jacques Benamey, indique recevoir régulièrement de plaintes et évoque une situation devenue alarmante.
On va avoir 230 plaintes. On va au bureau de l'habitat. Jusqu'aujourd'hui, est incapable.
Pour sa part, le service de l'urbanisme reconnaît l'existence de ces abus et promet des sanctions contre le bailleur fautif.
Dans son article 39, que j'ai dit, tout bailleur qui perçoit une garantie locative supérieure à 3 mois pour les bails résidentiels ou à 6 mois pour les bails sociaux qu'il dirait est puni à 3 mois de ses.
En entendant une application stricte de la loi, louer une maison à Kinshasa demeure un véritable parcours du combattant pour de nombreux ménages.
Actualité internationale.
Des problèmes techniques perturbent les opérations de vote pour les élections présidentielles et législatives ce 15 janvier en Ouganda, affectant jusqu'à l'élection du chef de l'État. L'opposition dénonce une action délibérée de l'exécutif afin que Yoweri Museveni se maintienne au pouvoir après 40 ans de règne. Au Cameroun, les autorités dénoncent un acte barbare après une attaque survenue le 14 janvier dans la région anglophone du Nord-Ouest. Des hommes armés ont tué 15 membres d'une même famille dans le département de Donga-Mantung, plus précisément dans la commune d'Endou, à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec le Nigeria.
L'invité.
C'est le député national Amis Patrick Lupia Prince, élu de la circonscription de Kailo dans la province du Maniema. En séjour dans cette zone, à l'occasion des vacances parlementaires, il affirme que la réhabilitation des infrastructures routières du territoire de Kailo et du Maniema en général constitue une urgence. Tout en saluant les initiatives du gouvernement provincial en matière de réhabilitation des routes, il appelle le gouvernement central à soutenir et accompagner ses efforts. Amis Patrick Lupia Prince s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Amis Patrick Lupia, bonjour.
Bonjour Madame Kizia.
Après votre tournée dans le cadre de vos vacances parlementaires, que retenir de cette tournée?
Bon, comme vous savez, nous avons l'obligation à chaque fin de chaque session d'aller dans nos circonscriptions électorales respectives en vue d'aller recueillir les désidératas de nos électeurs et les amener à Kinshasa, c'est-à-dire dans le cadre des rapports de nos vacances parlementaires et qui au niveau de l'Assemblée, on collecte tous nos rapports, on fait une synthèse et on envoie cela au gouvernement, c'est-à-dire à l'exécutif, pour voir dans quelle mesure on peut amener des solutions, tant soit peu, aux problèmes que nous amenons de nos différentes bases.
Exactement, c'est ce que vous avez fait. Et qu'est-ce que vous avez pu constater ici, dans votre circonscription électorale?
Vous savez, dans ma circonscription électorale, il y a cette problématique de la précarité de la vie sociale. Nous avons des problèmes sur l'ensemble des infrastructures sociales, notamment les routes. Alors, il y a quand même un peu d'efforts qui sont effectués par le gouverneur du Maniema, qui a commencé à la réouverture ou à la réhabilitation de certains axes. Par exemple, chez moi, au Kailo, il y a la RN31 qui relie Muyengo en passant par Kailo vers Pauline, vers Pugna. Ces tronçons-là a été réhabilité par le gouverneur. Ce que nous encourageons, que cela se fasse aussi dans d'autres axes. Mais cela ne suffit pas, parce que le territoire de Kailo a 4 entités, c'est-à-dire 3 secteurs et une chefferie, et il y a différents axes des routes d'intérêt, tant national, provincial, que c'est des secteurs agricoles qu'il faut nécessairement réouvrir.
Ce n'est pas pour la première fois que vous avez été élu député dans la circonscription électorale de Kailo. Les problèmes que vous venez de citer, ça a toujours existé. Et toutes les fois que vous veniez ici, quel est l'apport que vous avez déjà apporté pour résoudre ces problèmes une fois pour toutes, si pas une fois pour toutes, mais soulager un peu la communauté?
Vous avez suivi, pour la législature passée, on avait fait un constat général. Et quand le chef de l'État a suivi les rapports de tous les collègues des autres territoires, des autres provinces, et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait initier un projet standard à tous les 145 territoires. Alors, ce projet-là, pour nous, c'était une solution nationale, parce que ça venait répondre aux problèmes que nous étions en train de soulever au niveau local et que cela a été déjà pris en charge par le chef de l'État au niveau national.
Malheureusement, les projets en question, l'on dirait qu'il n'a pas bien été exécuté dans plusieurs provinces et notamment dans votre circonscription électorale.
Effectivement, c'est ce que nous avons procédé au suivi ça, ces projets, et nous avons décidé de les reconduire dans les projets des lois financières de 2026, ce qui est fait, mais cela nous a donné l'obligation de procéder à la vérification matérielle sur terrain de ce qui s'est passé réellement. Parce que une chose, ce sont des rapports que ces entreprises ont fait au niveau du gouvernement national, mais une autre, c'est ce que nous sommes en train maintenant de constater sur terrain. Donc, vous voyez que quand nous allons coordonner ces suivis sur terrain et à ramener les informations réelles à l'exécutif national, cela va booster que ces projets se réalisent le plus tôt possible.
Vos électeurs, comme vous avez toujours dit, la situation socio-économique pose toujours problème, et surtout la situation sanitaire dans Kailo. Après votre passage, qu'est-ce que cette population peut espérer?
Bon, la population de Kailo peut espérer, je ne dis pas que tout est noir, non. Mais le problème qui se pose, c'est surtout l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Parce que vous avez constaté que tous les hôpitaux, les patients qui y sont, il n'y a que des ordonnances qui se font pour aller chercher des médicaments en dehors des structures. Nous allons faire les rapports au niveau du gouvernement de la République pour que les ministres de tutelle puissent tirer des conséquences en vue de résoudre tant soit peu les problèmes que traversent nos électeurs.
De votre passage à Kailo, en toute urgence, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour cette communauté?
En tout cas, pour moi ici, c'est la communication, c'est-à-dire la réouverture des routes. Parce que si les routes ne sont pas réouvertes, mais les populations, dont la majorité, elle est en campagne, ne saura pas acheminer les produits vivriers vers les centres de consommation pour la survie de la population.
Ami, ici Patrick Lupia, je vous remercie.
Merci, c'est moi qui vous remercie, madame.
Notre invité était avec Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal. Mise en onde, Patrick Kassongwa. Coordination, Richard Junior Kamunga. Supervision, Alain Rung. Et à la présentation, grâce à Mzati Masanzi. Merci de votre fidélité et excellente suite des programmes sur nos antennes.